Je crois que de Dead Sushi à l'attaque des titans, la boucle est bouclée d'une certaine manière. Nous allons donc conclure ce dernier podcast par une dernière boucle. Nous allons donc chacun notre tour présenter nos attentes et nos conseils ciné hors Asie en ce mois de mai 2015. Yannick, as-tu un conseil ou une attente pour le cinéma actuellement?
Bah, en fait, j'ai les deux. Alors, niveau conseil, bon, j'ai rien vu de particulièrement intéressant au cinéma ces derniers temps, mais j'ai vu au BIF un film qui j'espère sortira un jour, bon, peut-être pas en salle, faut pas rêver, mais au moins en DVD, qui est Spring, de Justin Morehead et Justin Benson et Aaron Morehead. Excellent film de monstre, magnifique histoire d'amour, qui mérite vraiment d'être vu.
Tu peux répéter le titre?
Quoi?
Est-ce que tu peux répéter le titre, hein, s'il te plaît?
Spring.
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 Oui, oui, et il est passé justement au festival de la Louise. Il est passé au BIF et il a gagné le prix au BIF.
Tu l'avais inventé.
Et il a un effet.
On
recommence. Le film a en effet été diffusé au BIF et a gagné le prix du jeu du public. Et pour l'avoir vu, il est vraiment très très bien.
Ah oui, c'est vraiment super.
Donc on peut espérer une diffusion française de Spring.
Bah, espérons.
Yannick, quelle serait ton attente?
Ah, bah mon attente, c'est tout simplement le prochain Mad Max, donc arrive là.
D'accord, bon.
J'ai pas attendu un film avec une telle impatience depuis le premier Seigneur des Anneaux, en fait. Je veux dire, on retrouve, là, je trouve vraiment un divertissement, d'après les bandes-annonces, c'est ce qui a été révélé, hein, on verra après d'avoir vu le film, mais un divertissement jusqu'au boutiste, violent, viscéral, tout autant qu'un univers que j'adore, donc j'ai vraiment grande impatience de voir ce film.
Bon, on verra si... Je crois que ça fait à peu près 3 mois que c'est dans les attentes d'à peu près tout le monde, donc on verra dans quelques semaines maintenant si ça sera dans les conseils lors du prochain podcast.
Hein. Mais il y a eu des projections de presse du film ou pas encore?
Oui.
Ah bon? D'accord.
Oui, mais personne n'y était, donc je sinon ce qui a suivi. Samir, quel serait ton conseil et ton attente actuellement au cinéma?
Mon attente, je me répète, mais maintenant c'est bientôt, c'est je crois dans 2 semaines, c'est le dernier Desplechin. Mm-hmm. Je pense qu'on va en parler peut-être ce soir. Et oui, donc c'est le dernier Desplechin, je l'attends avec impatience parce que tu parlais de boucle bouclée. J'ai l'impression que la boucle sera bouclée avec ce film-là qui revient sur l'adolescence.
Oui, l'adolescence
de Paul Dédalus,
les années lycées de
Paul Dédalus, qui est le personnage principal de comment.
Et son enfance aussi, enfin c'est à trois étapes, quoi. Trois périodes.
Voilà,
c'est
donc le film comment il se c'est un film de 95, celui-là c'est un film de 2015, donc peut-être que. Enfin, je l'attends vraiment avec impatience. Et conseil, c'est plutôt une réédition. Vous le savez, actuellement sur les écrans, il y a la version de 4h11, je crois. Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. Voilà. Donc,
t'as encore le temps, toi.
Ouais, je pense que là, ouais. Et j'ai pas envie trop d'en parler de ce film parce que tout a été dit et tout. Simplement lire un petit extrait d'un article qui a été écrit sur ce film. En 1984, quand il était passé au Festival de Cannes, cet article a été écrit par Serge Danet. Et le film qu'il avait vu durait 3h40. Donc pour vous dire à quel point on a beaucoup de chance aujourd'hui de... Donc c'est vraiment très très court, mais ça donne un peu l'idée. Alors, car au bout du compte, c'est le temps qui tranche, c'est-à-dire la durée. Sergio Leone était parti sur l'idée d'un film exploitable en deux époques, 4h30 au total. Je vous rappelle que quand il écrit ce papier, on est en 84. Donc 4h30 au total, puis on lui apprend que cela n'est pas possible aux USA, où aucun film ne dépasse 3h. La mort dans l'âme, il accepte de couper 1h, mais c'est encore trop long. Le film est aujourd'hui entre les mains de la Warner, prête à le remonter entièrement, ce sera de la charcuterie, et Sergio Leone est prêt à un nouveau procès, et à retirer son nom du générique. Dépendre du marché américain est tragique. L'Amérique me fascine, dit Sergio Leone. Plus je la connais, plus je l'aime, et plus je me sens à des années-lumière d'elle. Pourquoi ont-ils donc à ce point besoin de l'Amérique, dit Serge Dallet. Grande question. Léon est un cinéaste italien qui n'a jamais filmé l'Italie moderne, mais qui a italianisé tout ce qui tombait sous l'œil de sa caméra. En France, en Italie, dit Sergio Leone, à Paris, il n'y a que la France et l'Italie. En Amérique, il y a le monde entier. En Europe, ajoutait-il Mossad, il n'y a plus de contradictions, tout juste la logique amère de la survie. À Benito Crati, qu'il a incité à réaliser une vie de Garibaldi, Sergio Leone répond non, parce qu'il faudrait faire « Il était une fois l'Italie » et que comme l'Italie n'existe toujours pas, ce serait « Il sera une fois l'Italie ». L'Europe est-elle déjà trop émiettée ou au contraire pas assez en ébullition pour donner lieu vraiment à des histoires qui soient autre chose que du ratage cultureux ? Les mythes, explique Mircea Eliade, c'est toujours plus ou moins un récit qui répond à une question. Comment quelque chose ou quelqu'un s'est mis à exister ? Comment ça revient de nulle part ? Et toutes ces questions se trouvent dans le film « Était une fois en Amérique ». Et c'est pour ça que je trouve que ce petit passage de l'article de Serge Dallet est très très important parce que c'est plutôt, voilà, c'est un film sur un mythe. Il y a deux projections, c'est 14h, 19h, c'est au Grand Action et je pense qu'il faut absolument le voir ou le revoir. Voilà.
Très bien. Sidi, un conseil, une attente.
Ben, on va parler d'une autre mythologie, c'est celle de Paul Dédalus, peut-être le personnage le plus fameux de la cinématographie d'Arnaud Desplechin, héros ou plutôt anti-héros de Comment je me suis disputé, sorti il y a pratiquement 20 ans. Donc ce film-là va revenir sur une partie de la vie qui n'était même pas vraiment évoquée dans le premier film, à savoir l'adolescence. Enfin, elle était évoquée, mais c'était pas le plus important, en fait. On parlait un petit peu de ses années à Normal Sup, voilà, des conditions de sa dispute avec son ancien ami Rabier, mais on parlait pas véritablement de sa rencontre avec Esther, qui sera un peu le grand amour de sa vie. Donc, trois souvenirs de ma jeunesse, oui, c'est trois parties de sa jeunesse. Ça part de la petite enfance, avec sa mère, on va dire, schizophrène, enfin un peu psychotique, qui a une maladie mentale. Ensuite, ça va être une deuxième étape lors d'un voyage, je crois, en Russie, j'espère ne pas me tromper, je l'ai vu il y a un petit moment, où notamment il va être pris dans une sorte de film d'espionnage. Enfin, il y aura quelque chose, un petit relent du film La Sentinelle, assez intéressant, mais ce sont deux épisodes assez courts. Mais la vraie matière du film, donc, qui va durer une bonne heure et demie, c'est son histoire d'amour avec Esther, la rencontre, leurs multiples ruptures, et comment cette histoire d'amour, même si elle n'était pas vouée à durer, fera de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est un film qui à la fois reprend les personnages de Comment je me suis disputé, mais qui se permet de nombreuses variations, c'est-à-dire que le Paul Dédalus adulte de ce film n'est pas exactement celui du premier film. Il est devenu aujourd'hui anthropologue, là où dans Comment je me suis disputé, c'était un prof de philosophie. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une boucle qui se boucle, Samir. C'est-à-dire qu'il part d'une base, effectivement, mais j'ai l'impression que son cinéma a tellement évolué depuis Comment je me suis disputé qu'il est au contraire en train d'ouvrir quelque chose d'autre. Depuis deux films, j'ai l'impression qu'il a plus envie d'aller vers une sorte de... Il assume peut-être un peu plus les sentiments de ses personnages, là où ils se sont beaucoup tapés sur la gueule, là où il a beaucoup filmé les chutes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'intéresse un petit peu plus à l'amour assumé et aux souvenirs que l'on ne veut pas distordre, que l'on ne veut pas laisser mourir d'une certaine manière. Donc c'est un film qui, pour moi, et aussi parce qu'il a choisi de filmer essentiellement de jeunes acteurs dont c'est le premier film, c'est un film qui donne l'impression que Desplechin est un peu en train de renaître, de recommencer à découvrir le cinéma et le plaisir de faire des films. Donc c'est une vraie joie de voir ce film qui sort le 20 mai.
Je pense qu'il l'avait pas, ce plaisir-là.
Il l'avait avant, mais j'ai l'impression qu'il a un peu réglé tous les comptes qu'il avait à régler dans son dernier film, dans Un conte de Noël, qui était un peu le film terminal de ça. Et que depuis Jimmy P, il entrait un peu dans les origines des troubles d'un personnage via la psychanalyse, il est un peu en train de revenir à une forme d'éclaircissement, d'une certaine manière. Il y a plus de douceur dans ce cinéma et surtout, on sent qu'il prend du plaisir à filmer la jeunesse, quoi, à filmer vraiment la jeunesse, des jeunes acteurs maladroits. Il y a des moments de flottement que je trouve assez beaux et qui ne seraient peut-être pas autorisés auparavant. Donc ça sort le 20 mai et pour moi.
Donc, trois souvenirs de ma jeunesse, Arnaud Desplechin, on y reviendra, je pense, avec Nicolas, très certainement à Cannes. ou après, lors du festival, ou après, comme il sort peu après. As-tu une attente, par ailleurs, en salle?
Une attente
en ce moment.
Peut-être L'ombre des femmes, de Philippe Garrel, finalement. La source. La source. Voilà. Donc voilà, une attente, oui, parce que Philippe Garrel m'avait un peu inquiété. Il y a deux films à travers un film dont j'ai oublié le nom, avec Monica Bellucci, que je trouvais totalement raté, quoi. Son cinéma semblait totalement asséché.
Été brûlant, c'est ça,
oui. Un été brûlant, oui, que je trouvais assez problématique. Là où on suit la jalousie m'a un petit peu rassuré, quoi. J'ai l'impression qu'il retrouvait un petit peu une certaine forme de santé, de simplicité dans sa manière de conter ses petites histoires de chambre, hein. C'est un peu ça son cinéma. Donc voilà, je me demande un peu où il va. En plus, ça va être son premier film sans Louis Garrel depuis pas mal d'années.
Mais comment il va?
Pour la joie de certains. C'est un peu le retour de Stanislas Mérard, et voilà. Voilà, c'est pas une attente à proprement parler, mais bah, j'ai une curiosité.
Ackerman, ça
pardon
le dernier Ackerman.
Moi, je n'aimais pas du tout le dernier Ackerman.
Donc, il n'était pas sur le retour.
Enfin, on n'a pas beaucoup revu depuis. Voilà.
Elvire, oui, as-tu un conseil et ou une attente?
Aucun conseil, vu que je n'ai rien vu, comme d'habitude. Une attente à part Mad Max, pas grand chose, donc je laisse la parole à Nicolas.
Donc moi, comme d'hab, j'ai deux films à te conseiller, donc un qui ne s'est pas encore sorti et un qui est déjà sorti. Donc pour celui qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 15 juillet 2015, c'est la Isla Minima, anciennement appelée Marshland.
La Isla Bonita.
La Isla Minima.
D'accord, pardon.
Donc c'est un film d'Alberto Rodriguez, qui sortira le 15 juillet, comme j'ai dit. Et donc c'est un peu le film qui a fait le buzz dans les derniers festivals. Donc à Bonn, il a eu le prix de la critique. Et donc c'est vraiment un film un peu à l'ancienne, assez classique dans son scénario, pas vraiment surprenant, qui fait beaucoup penser un peu, c'est un espèce de mix entre, vous savez, tout le monde va dire ça, mais c'est un espèce de mix entre David Fincher, entre guillemets, et True Detective. Donc ça se passe dans l'Espagne post-franquiste, dans les années 80, et donc dans une petite ville d'Andalousie, dans les marécages d'Andalousie, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup penser à True Detective, avec une énorme qualité plastique, chaque plan est travaillé avec une lumière fabuleuse, enfin voilà. Et donc c'est deux flics, comme dans True Detective, qui sont envoyés donc dans ce village d'Andalousie où il y a eu un meurtre. C'est un enlèvement, je sais plus, c'est en fait à la base c'est deux filles enlevées, mais on se rend compte rapidement que elles ont été tuées, donc c'est pas vraiment un spoil. Et donc à partir de là, cette enquête va être un prétexte en fait pour vraiment une espèce de d'analyse de la société post-franquiste avec l'un des flics qui était entre guillemets dans la garde de Franco. Et l'autre qui était chez les rebelles, enfin avec la rébellion, et qui était anti-franquiste. Enfin, quoi. Et donc à partir de là, c'est justement ce qui est très intéressant dans le film, outre l'enquête qui est finalement assez secondaire, c'est de voir un peu cet état des lieux de l'Espagne des années 80, dans les petits villages comme ça d'Andalousie, et cette ambiance qui joue très, très organique, très anxiogène, et puis cette relation entre les deux filles qui au final doivent travailler ensemble, mais on sent implicitement qu'ils ont ils y pensent pas forcément la même chose et tout. Et c'est intéressant aussi de voir comment les deux rôles vont final, par rapport à leur passé, les deux rôles vont s'inverser. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une espèce de basculement qui fait que ce qu'on croyait pour l'un des personnages est plus réel, pareil pour l'autre. Et donc je trouve qu'il y a une espèce de sentiment de perdition comme ça dans les marécages d'Andalousie qui est vraiment très bien retranscrit à l'écran. Bon, après, c'est un film très classique. C'est pas très surprenant, au final on s'en fout un peu de qui est le tueur et tout ça, mais bon, je trouve que c'est vraiment un film très intéressant et très atmosphérique.
Le récit du film se déroule en quelle année?
Dans les années 80. D'accord. Voilà.
Quel est ton deuxième conseil?
Et donc mon deuxième conseil, c'est un film qui est déjà sorti, c'est Broadway Therapy de Peter Bogdanovich. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'en fait j'ai retrouvé un peu ce que je ne retrouvais plus dans les derniers Woody Allen. Je trouve que c'est un bel hommage à ce qu'on appelle la screwball comedy. C'est une espèce de comédie des années 40, un peu excentrique, avec beaucoup de personnages, beaucoup de quiproquos, revenir à la base de la comédie, quoi. Et je trouve que je me suis vraiment marré, je trouvais les personnages vraiment. Enfin, c'est un film.
D'ailleurs, il y a un hommage explicite à la folle ingénue de Beach.
Ouais,
il y a un dialogue qui revient en boucle.
Avec les noisettes, enfin, les voisins, à Central Park, machin, ouais, ça. Et je trouve que c'est un film
remarquablement écrit dans les dialogues, dans la façon dont les personnages se répondent. C'est vraiment du ping-pong verbal. Et les personnages se renvoient la balle sans cesse. Voilà. Et puis tout chaque scène, en fait, se répondent les unes aux autres. Celles-là qui sont passées avant, celles qui arrivent après. Et c'est vraiment remarquable. C'est une vraie toile d'araignée, en fait. Et,
parce qu'il y a, un empilement dans les quiproquos aussi.
C'est un empilement de quiproquos. T'as une séquence, dans le restaurant, elle est juste incroyable. Ouais, ouais. Quoi. C'est les personnages qui veulent tous être... En fait, qui se retrouvent tous au restaurant, alors qu'ils ne savaient pas du tout qu'ils allaient tous au même restaurant. Et donc, forcément, ils ont tous dit un mensonge aux autres personnages en disant « Ouais, en fait, je vais faire ça », alors qu'en fait, ils allaient au restaurant avec la copine de l'autre, des trucs comme ça. Et donc, évidemment, tous les personnages se retrouvent au restaurant, et ils sont tous à voir, tous, quoi. Et donc, un enchaînement comme ça de quiproquos qui est assez jubilatoire, et c'est comme ça un peu pendant tout le film. Et donc, c'est vraiment un film...
C'est pas un film de vieux gâteux, quoi.
Voilà, quoi. Et donc, je trouve justement, ce que j'ai un peu perdu, cette joie, ce plaisir du dialogue, quoi, ce que j'avais un peu perdu chez Woody Allen, quoi. Que je retrouve là, donc ça... Et Peter Bogdanovich, qui est apparemment un réalisateur très réputé, je n'ai vu aucun de ses films, donc du coup ça m'a vraiment donné
envie. Il a toujours fait ça, en fait. Ouais. Il a toujours fait ce genre de comédie dans les années 70.
Il y a la séance. Ouais.
J'ai l'impression qu'il a eu...
La séance, c'est plus un drame.
Ouais. Oui. J'ai l'impression qu'il a eu un problème, il a pas pu faire de film pendant je sais pas combien d'années.
C'est juste perte d'inspiration, mauvais film. Parce qu'il avait pas mal le melon aussi, quand c'est cartonné dans les années 70.
Voilà. Donc moi je trouve cette comédie vraiment très bien écrite. On a plus tant que ça des comédies vraiment écrites comme ça, de cette façon-là, qui rend vraiment un hommage à la comédie, au code de la comédie.
À la télé,
le burlesque, le... Ouais, la télé, c'est vrai, avec les films, Sorty Rock, et puis le dernier qui est sorti, je sais plus comment ça
s'appelle. Même Modern Family, par exemple, ouais, c'est ça. Qui fait ça de temps en temps aussi.
As-tu une attente et tu n'as pas le droit de dire Mad Max, hein?
Ouais, je vais dire Tom Holland, alors, comme ça, pour Tom Holland, donc à la poursuite de demain.
Tomorrow. Non, mais j'entends toujours Thomas Holland. Quand même. Je vous jure, non, mais c'est ça, la
première fois. Tomorrow Holland.
Tomorrow.
Et donc, il s'appelle fabuleusement La poursuite de demain en français. Merci les distributeurs. Et moi, je l'attends parce que c'est Brad Bird, et je trouve que ce réalisateur qui, à la base, fait Les Indestructibles, et qui avait un peu relancé, en fait. Enfin, je trouve que son film Les Indestructibles pour Pixar était un des films les plus inventifs du studio. Mmh.
Et c'est un des seuls bons Pixar, d'ailleurs.
Oui. Oh, ah, je suis d'accord. Tu sors.
c'est clair. Et quand il était passé au live avec Mission Impossible 4, on avait tous un peu peur, et au final, il avait vraiment... Enfin, c'était vraiment un très bon film d'action. Mmh. Et donc là, le fait de le revoir un peu dans son univers de base, mais avec en live encore, ça a l'air assez... on revient un peu le Disney, mais le Disney, vraiment le bon Disney, quoi. C'est celui qui donne envie d'aller au parc d'attractions, les trucs comme ça, tu vois. Ça
a l'air... Après, faut préciser que c'est encore une adaptation d'attractions.
C'est une attraction, justement, de...
C'est le monde, voilà. Tomorrowland, c'est Fantasyland, ouais. Chez Disneyland de Paris, donc c'est vraiment
C'est Fantasyland,
C'est ce côté-là qui me fait un peu peur, d'ailleurs, dans le film. L'univers de Brad Bird, qui vient de quelque chose un peu plus, un peu plus punk, on va dire, de Disney, puisqu'il a commencé...
Ouais, mais justement, il y a une projo...
Pirates des Caraïbes, c'était la même chose. Et oui, le premier a été assez réussi.
Il y a une projo qui a eu lieu il y a 2-3 jours, et apparemment, des retours, ce que j'ai entendu, c'est... Enfin, il y a des idées dans tous les sens, et tout l'abandon ne montre rien du tout. Et apparemment, c'est assez génial. J'ai hâte de le voir.
Et ça sent la franchise, ou tu penses que ça sera...
Je pense même pas, non. Ouais. Enfin, je pense pas que ce soit un film à franchise.
On va atteindre la logique de Disney.
Après, s'il y a, 900 millions de dollars de recettes, forcément.
Martin, as-tu un conseil?
Les conseils, pour moi, c'est toujours aller à la Cinémathèque, mes amis. parce que c'est un peu ma deuxième maison. Donc, vous avez encore la rétrospective consacrée à Buster Keaton, et qui est vraiment... l'occasion de découvrir et de redécouvrir l'un des plus grands génies du cinéma, l'un des plus grands inventeurs du cinéma. C'est un cinéaste, acteur, cascadeur qui a vraiment bouleversé les codes en son temps, et qui a limite inventé le cartoon, quoi, vous le signez, quoi. Donc voilà.
Papa de Jackie Chan, donc.
Oui, voilà, exactement. Il a eu un disciple très connu, dont on parle souvent ici, qui est Jackie Chan, donc qui a repris aussi certains de ses plus fameux gags et tout ça, qui les a transformés à la Kung Fu Comedy. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un de vraiment passionnant, et je vous invite à redécouvrir ce cinéaste. D'ailleurs, Lobster, l'éditeur de Serge Bromberg prévoit de sortir des versions restaurées de courts-métrages et de longs aussi de Buster Keaton en 2016 pour les 50 ans de la mort du génie.
Donc, il y avait Arte qui avait déjà sorti une quasi intégrale.
Oui, oui, mais justement, ils ont fait deux soirées, enfin deux séances Lobster pour les Buster Keaton, et ils ont présenté certains films qui sont en work in progress de restauration, notamment Malek Forgeron. Il s'avère qu'ils ont retrouvé le film dans sa version intégrale. Voilà. Très par bien. Différents truchements, je pense que dans les bonus, Bromberg par le contrat avec toujours autant de truculence, la façon dont ils sont retombés dessus, et c'est, croyez-moi, l'histoire en vous la chandelle. Et sinon, mon conseil, enfin mon attente, l'œuvre de Gaspard Noé. Il y en a certains qui auront la chance de le voir à Cannes.
Vivement la séance de minuit.
En 3D, mais voilà. Mais...
Minuit 15, voilà. Mercredi, je crois.
Ouais, okay. Bon, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, au début, quand on nous dit un film de cul par Gaspard Noé, on frémit, on a peur, parce que, bon, la dernière fois qu'il avait fait quelque chose qui se rapprochait un peu sexuel, c'était une scène de viol en plan séquence absolument atroce.
Il y a eu Sodomite aussi, son court-métrage, qui était pas mal.
Oui, voilà, et... Et il a eu aussi participé, si certains se souviennent aussi, à une espèce d'omnibus très cul, et il s'était concentré de filmer une branlette. Donc bon, là il nous promet une vraie bonne histoire d'amour, une histoire positive, joyeuse, festive. Donc déjà, et ça c'est un regain d'intérêt. Et son accroche est simple, je vais faire pleurer les filles et faire bander les mecs. Alors moi là je suis partant, allez, vas-y Gaspard, on va la purée.
J'aime beaucoup Gaspard Noé, mais j'ai peur que je n'arrive pas à retrouver chez lui la claque que j'ai eue devant Hunters of Oil, qui était vraiment une des meilleures séances de cinéma de... En même temps, une des plus cauchemardesques, parce que c'est un cauchemar, ce film, un cauchemar, mais c'est un film qui t'immerge tellement dans un univers complètement cauchemardesque que tu... Ouais, t'es plus au cinéma, quoi, t'es dans un univers complètement ailleurs, et il y a tellement peu de films maintenant qui arrivent à te transporter comme ça dans un univers complètement...
Ouais, mais là, imagine...
Complètement fou, comme ça.
Un porno photographié par Bruno Déby en 3D.
Oh, mais j'espère.
Alors voilà.
Après, généralement, ce genre de film, voilà, Lars von Trier a fait son porno aussi, quoi.
Oui. Bon. Oui, mais il a fait un truc encore en glauque et psychanalytique à deux balles. Ouais. Là, j'espère. Après, voilà.
C'est pour que ce soit pop, quoi. Si,
bah oui, c'est ce que j'attends de voir.
Marc, ton conseil et ou ton attente?
Alors, plutôt une attente, en plus du Gaspard Noé, évidemment. Il y a Tag de Sonotion qui sort en juillet au Japon, deux semaines après un autre de ses films Love and Peace, et la bande-annonce est assez démentielle, ça promet de dépoter, et en fait c'est une adaptation d'une franchise Tag qui je crois que c'est tiré d'un manga. Il y a déjà eu 4-5 films adaptés de ce manga. Ça a l'air assez trash, assez sanglant, et la bande-annonce est assez jubilatoire, donc j'espère qu'on...
Il a pris pas mal de liberté, parce que...
Apparemment.
Oui, parce que Tag, apparemment, c'est l'histoire de personnes qui ont toutes le même nom et qui meurent de façon mystérieuse, alors que là, c'est toutes les jeunes filles d'une université ou d'une école qui meurent les unes après les autres. Donc voilà, c'est le problème.
Donc voilà, en espérant qu'il soit diffusé à l'Étrange Festival, pourquoi pas.
Par exemple, avec une intégrale des 5 films.
Ouais, ce serait bien. Oui,
ouais, c'est
bien.
Des médecins,
si nous écoutez, là. Hein. Monsieur Frédéric Tan, hein,
s'il te plaît.
Tu as un conseil ou pas?
Non, pas de conseil.
Jérémy.
Bah, vraiment, le conseil, c'est comme Samir, d'aller voir en salle Il était une fois en Amérique, puisque c'est un des plus beaux films du monde et que... Dans une version comme ça, voilà, ça se...
On dit ça pour tous les films de Serge Léon.
Non, mais c'est en Amérique.
Non, mais oui.
Celui-là, il est particulier.
C'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose. Et sur grand écran, c'est une chance qu'on a de aller le voir. Donc vraiment, voilà, faut foncer. Et en attente, j'en ai pas mal, mais il y en a une qui retient mon attention, c'est Maggie d'Henry Hobson avec Arnold Schwarzenegger. Qui revient dans un projet assez atypique. C'est l'histoire d'un homme qui dans un monde où il y a les zombies, etc., sa fille est contaminée par un virus et devient un peu à peu zombie. Et lui est partagé entre le fait de vouloir la protéger, il ne sait pas s'il doit la tuer, ou, etc., il essaie de la sauver. Et ça me fait penser à The Last of Us, le jeu vidéo qui est sorti sur PS3 et sur PS4. Et donc, je trouvais ça intéressant de voir Schwarzenegger dans un rôle comme ça, dans un film un peu intimiste, un peu, voilà. Donc c'est un projet qui retient mon attention.
Voilà. Justin, quel serait ton conseil, hein?
Alors, j'aurais deux conseils. Donc en premier, ce serait un documentaire qui est sorti, je crois, depuis le 22 avril en salle, donc de Charlie Lyne, qui s'appelle Beyond Clueless.
Ah oui, c'est bien ça.
Ah bah, je voulais aller voir.
Et donc c'est un documentaire consacré au teen movie. Alors, donc tout ce qui est film d'ado, surtout américain, plutôt associé au lycée US. Alors, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que d'habitude, dès qu'il y a un doc, on en a eu un l'année dernière sur Arte d'ailleurs, donc dès qu'il y a un doc consacré au teen movie, donc on en revient aux mêmes références, donc que ce soit La Fureur de Vivre, American Graffiti, ce genre de film. Et là, en fait, le réalisateur a un parti pris, c'est qu'il va parler que des films, des teen movies associés à son adolescence.
American Pie, quoi.
Clueless. Entre autres. Mais justement, Clueless, en fait, le point de départ, ça part de 95. Donc le Clueless, jusqu'à à peu près 2004, avec Lolita Malgré Moi, qui est le dernier...
vraiment, The Gift, notamment.
Le vrai dernier film, vrai grand, beau teen movie. Enfin, il y en a eu d'autres après, mais...
Projet X.
Et donc ce qui est bien, voilà, donc en fait les références sont pas forcément toujours nobles. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il va parler de différents états, différents thèmes liés à l'adolescence, et c'est ça qui guide les films qu'il évoque, quoi. Il va pas forcément, donc par exemple Clueless, qui est un film culte, on est entreaperçu pendant le documentaire, et il y a d'autres films un peu plus nobles, moins nobles, que ce soit à niveau qualité ou parce qu'ils ont été oubliés, qui sont évoqués. Ça peut être La Main qui tue, qui revient plusieurs fois, parce que c'est un film qui évoque pas mal de thèmes cruciaux de l'adolescence, alors que bon, le film, tout le monde l'a oublié, mais finalement, la manière dont il l'introduit dans sa réflexion, c'est très intéressant. Il y a Comportement troublant,
il y a Deeper Scripper,
ouais, Deeper ouais. Scripper sur bien, l'homosexualité de l'adolescente. Ouais. Donc,
le 2, vachement.
Et donc c'est vraiment bien amené, les références aux films telles que différentes situations qu'on peut rencontrer à l'adolescence, que ce soit la manière de se mêler à un groupe, de se différencier au contraire, enfin c'est très intelligemment fait, ou que ce soit les changements biologiques, par exemple avec Ginger Snaps, qui est associé, ah oui. Donc il y a le thème du loup-garou qui mélange avec le thème des changements biologiques de l'adolescence. Et donc c'est vraiment très bien fait, et en plus ce qui est bien, c'est au niveau de la forme, donc il y a un côté, la voix off, c'est l'actrice, donc tout le monde a dû oublier, Feruza Balk, qui jouait dans Dangereuse Alliance, qui est une référence qui revient pas mal aussi dans le film. Ah bah, je me souviens plus de la quand on la voit dedans. Et donc, c'est elle qui fait la voix off, et donc il y a une forme très. Il y a une atmosphère très planante, il y a une bande son électro, et au niveau du montage, il y a pas mal d'effets assez hypnotiques pour montrer un peu la transcendance de chaque moment de l'adolescence, que ce soit la première fois où là il y a une espèce de bande son électro qui explose avec un montage un peu hypnotique. Donc, même au niveau de la forme, c'est vraiment très bien fait, c'est assez à voir. C'est original au niveau des films abordés, en plus.
Puis pour ceux qui ont un peu zappé certains films de cette période-là, ça peut limite donner envie d'aller y voir un peu plus, je trouve.
Oui,
quand même. Il y a certains films qui m'ont un peu fait découvrir, quoi, ce
document. Bah, c'est pour tous ceux qui ont des souvenirs, ouais. Des fêtes du cinéma, elle est trop bien.
Elle est trop bien.
Comme
bien.
Oui.
Voilà. Est-ce que tu as une attente, hein?
Et j'avais un deuxième conseil.
Un deuxième conseil.
Là, je vais faire mon Martin. Ouais. Donc c'est à la Cinémathèque, il y a depuis cette semaine, il y a la rétro Philippe de Broca, yes. qui a commencé. Et donc Philippe de Broca, c'est un peu le pont entre la nouvelle vague et puis la comédie populaire française, avec un univers bien singulier autour de un goût pour la folie, pour la fantaisie, et puis donc il y a tout qui passe, hein, les courts-métrages, il y a des conférences qui lui sont consacrées, il y a tous les films qui y passent, donc bon, c'est pour
tous les films, ils ont fait certaines impasses,
On se demande pourquoi. La Gitane, par exemple, bon, un film très dispensable et disparu. Je crois que le quatrième film, le fait que avec Belmondo, là, le Amazon aussi,
n'est pas dans c'est pas très grave.
Non, c'est pas très grave non plus. Voilà,
on leur en veut pas.
Exactement.
Mais il faut surtout voir, je pense, parce que c'est bien. Ils sont très très rares. Les premiers films qu'il a fait avec Jean-Pierre Cassel.
Oui, oh, ils sont c'est sorti en Blu-ray, hein, c'est pas si rare que tout est disponible. Sauf qu'il y en a deux qui n'étaient pas disponibles en Blu-ray, qui sont sortis cette semaine aussi. C'est L'Amende 5 jours et Un Monsieur de Compagnie.
Mais est-ce qu'ils étaient disponibles avant là?
Ah oui, c'était. Non, ces deux-là, ces deux que je viens de citer, non, ils sont disponibles depuis cette semaine. Mais
oui,
par contre, il y avait
mais
les Jeux de l'amour, avant la rétro, il y avait les Jeux de l'amour et puis Le Farceur qui était trouvable, ça fait 2-3 ans qu'il était sorti en Blu-ray.
Ils ont même diffusé les films qu'il a réalisés au cinéma des armées.
Oui, donc, il y a les courts-métrages.
Ouais, voilà, ça permet un peu de mieux comprendre aussi sa démarche.
Et donc la période vraiment, si vous devez, vous ne pouvez pas tout voir, c'est vraiment la période 60-70. Où il y a tous les classiques, Le Magnifique, Cartouche, Les Jeux de l'amour, L'Homme de Rio, donc ce serait cette période-là. Et si on faut en voir qu'un seul, ce serait un film très très rare, qui est même épuisé en DVD, mais qui devrait ressortir d'ici quelques mois, c'est Le Roi de Cœur.
J'étais sûr.
Donc voilà.
Est-ce que tu as une attente
C'est un acteur anglais, Le Roi de Cœur.
Oui, Alan Bates. Et là, c'est vraiment l'ode à la folie, à la fantasy, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est très populaire, bizarrement, dans les pays anglo-saxons. Ça avait fait un bide absolu en France.
Mais il a eu un Oscar. Dans les universités américaines,
oui,
les 70, c'était étudié là-bas.
Oui, mais c'est une référence pour eux, sauf qu'en France, c'était un bide total.
L'Homme de Rio.
C'est un bide génial.
Ouais, j'aime beaucoup.
D'ailleurs, pour voir la version plus acceptable, c'est Le Diable par la queue qu'il a fait juste après. Quasiment la version un peu plus comédie française, mais avec Yves Montand qui est très très bien.
Il y avait un côté très bande dessinée dans ces films aussi.
Oui, c'est ça. L'Homme de Rio,
c'est exactement ça.
L'Homme de Rio, c'est Tintin. C'est Tintin. Quoi.
Ou Les Tribulations d'un Chinois en Chine.
Ouais, qui est un petit
peu. Spielberg est un fan de Broca. Donc,
de Broca, c'est très bon.
Est-ce que tu as une attente?
Et attente, bon, à part Mad Max, que je ne vais pas en citer, ce serait peut-être le prochain Pixar, vu que la vice-versa.
Je pensais que t'aurais dit le Garel, moi, sérieux. Non, sérieux, là.
Et chose de mes amis.
J'ai pas voulu te voler ton attente. Non, ce serait le prochain Pixar, qui a un pitch assez fou. La bande-annonce est assez intrigante. Donc
c'est
peut-être qu'ils vont
vice-versa. Et assez schématique aussi.
Donc peut-être, faut voir le résultat, mais le pitch, c'est quand même, on revient au Pixar qui tentait des pitchs un peu farfelus.
Après, j'ai confiance en Pixar justement pour sortir de son espèce de système, pour aller beaucoup plus loin que le pitch nous laisse.
Moi je le sens bien, parce que les derniers, c'était quand même depuis Toy Story 3, c'est le dernier grand, parce qu'il y en a eu des regardables après.
Rebelle, c'était quand même pas bien.
C'était regardable.
Oui, non, mais c'est toujours regardable.
Mais BO était bien. Bon, là, on attend qu'ils reviennent.
Ça valait pas un DreamWorks, quoi, même.
C'est quand même.
Par rapport à DreamWorks.
Bah, par Dragon, DreamWorks.
Bah, les croûtes, c'est quand même. Pour moi, les croûtes,
c'est génial. Les couilles, les croûtes, oui.
Génial, le petit film, j'ai vu. Je trouve que c'est un des meilleurs dessins animés, c'est
bon. C'est
dingue. Ou même par rapport à Réponse ou La Reine des Neiges, tu vois, par exemple.
Oui, oui.
La Reine des Neiges, c'est la grosse merde.
Ah non,
tu l'as vu déjà.
Ou Les Mondes de Ralph, qui était un Disney, mais qui était plus Pixar.
C'est
plus Pixar que les Pixar qui sortaient à ce moment-là.
Ou Big Hero 6, qui était plutôt pas mal pour un Marvel ou un Disney, tout dépend du point de vue.
Donc ça serait le Pixar, j'attends de voir, j'espère que ce sera la résurrection, le retour.
Pour ma part, mon conseil, c'est l'épisode 12 de la saison 7 de Mad Men, qui est le premier chef-d'œuvre de cette deuxième moitié de saison, et qui prend vraiment corps, dans lequel la thématique de la fin d'une période, qui est le nom de cette demi-saison.
C'est parce qu'il y a encore Space Oddity.
Il y a Space Oddity à la fin, en plus, donc ce ne peut être qu'un chef-d'œuvre.
Une musique a été suremployée.
Mais c'est toujours très subtil, cette utilisation de la musique en fin d'épisode de Mad Men, et qui est toujours assez intéressante. Et l'épisode, en fait, arrive à poser cette thématique de la mélancolie, tout en posant une certaine forme de nostalgie, mais pour les personnages et pas pour les spectateurs, et ça c'est extrêmement intéressant.
Donc, tu veux pas m'écrire un petit papier sur Mad Men?
Je prends le blog, je peux faire ça. Donc je développerai cette thématique, mais en tout cas oui, c'est assez bouleversant, du fait d'avoir passé 6 années avec ces personnages, lors de la description d'une période qu'on a détestée et dont tous les travers ont été décrits, et finalement les personnages ont une nostalgie pour cette période, qui se transforme en mélancolie et qui parcourt ces six saisons. Et on comprend uniquement cette mélancolie tout en gardant cet esprit critique sur cette période. Cette distinction entre nostalgie et mélancolie est assez bouleversante dans cet épisode et prend vraiment corps. Et donc là, j'attends les deux derniers épisodes de Mad Men qui en font très certainement la plus grande série du... il reste deux épisodes donc je ne m'avance pas, mais j'en reparlerai sur Time of the Season ou un peu plus tard dans le podcast. Et mon attente, c'est le nouveau Kitano, donc que je pourrai voir à Cannes, et donc j'en reparlerai à cette occasion. Et on en reparlera aussi, et je vous en reparlerai lors du prochain podcast qui sera entièrement consacré à Takeshi Kitano. Ça sera le podcast de l'été. Il va falloir revoir tous les films que je sais dans un mois pour les revoir. Bah, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et d'y avoir participé. See you, Space Cowboys.
Salut.
Salut. Flamme à cuche.